Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Lundi 9 mars 2026, il est 6h avant minuit. Nouveau jeu concours. Syllab vous propose de gagner 2 places pour le concert de Marcellus Pittman, Phil San et Evan et Yann Poleka. C'est le samedi 28 mars au BAM dès 20h30 dans le cadre du festival Doing It. Pour jouer et pour gagner, vous aurez besoin d'un mot de passe. Cette fois, il s'agit d'une ville, la ville d'origine de la tête d'affiche de cet événement, Marcellus Pittman, et il s'agit de Détroit. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur c-lab.fr. Tout de suite, le flash de l'Afghan.
Le Proche et le Moyen-Orient ne sortent pas de leur tourmente. Ce matin, Israël a continué ses frappes sur la capitale du Liban, Beyrouth, contre des bastions du Hezbollah. À Gaza, des attaques israéliennes ont déjà fait 6 morts hier, dont une journaliste. Aujourd'hui, l'OTAN a intercepté un missile iranien dans l'espace aérien turc. Selon Volodymyr Zelensky, 11 pays, dont les États-Unis, ont demandé à l'Ukraine une aide pour lutter contre les drones iraniens. En parallèle, le conflit fait toujours peser une pression économique sur les carburants. La bourse new-yorkaise Wall Street et la Commission européenne craignent une inflation. Demain, la Croatie sera le premier pays de l'Union européenne à limiter les hausses de prix à la pompe. Selon l'AFP, le gazole a atteint 2 euros le litre en France. Les frappes américano-israéliennes ont tué le guide suprême iranien, mais le pouvoir, lui, n'est pas resté vacant longtemps. Le religieux Mojtaba Khamenei a été désigné nouveau guide suprême quelques jours après la mort de son père, Ali Khamenei, tué dans des frappes conjointes israélo-américaines. Un passage de pouvoir inédit dans une république islamique construite contre toute idée de succession héréditaire. Roman, qui est donc Mojtaba Khamenei ?
Mojtaba Khamenei, 56 ans, est le deuxième fils du défunt guide suprême, Ali Khamenei. Adolescent, il participe à plusieurs périodes de mobilisation pendant la guerre Iran-Irak entre 1980 et 1988. Plus tard, il part étudier la théologie dans la ville sainte de Qom. Il obtient le titre Ojtalot el-Islam, un rang intermédiaire dans la hiérarchie cléricale chiite. Jusqu'ici, c'était un homme de l'ombre. Il n'a jamais occupé de fonction officielle et apparaît très rarement en public. Sa nomination a été décidée par l'Assemblée des experts, un collège de 88 religieux chiites, chargé de désigner un guide suprême. Une décision prise quelques jours seulement après les frappes du 28 février, dans lesquelles Mojtaba Khamenei aurait perdu plusieurs membres de sa famille, ses parents, son épouse, son fils et sa sœur, selon le journal Le Monde.
Et sa nomination est-elle controversée ?
Elle soulève en tout cas plusieurs questions. D'abord sur sa nature, car l'Iran s'est construit en 1979 en opposition à la monarchie héréditaire du Shah. Pourtant, pour la première fois, le pouvoir suprême passe du père au fils. Un paradoxe, souligne le New York Times, Ali Khamenei avait lui-même déclaré l'an dernier qu'il ne souhaitait pas que cette fonction devienne héréditaire. Autre interrogation, sa légitimité religieuse. Le titre d'Ojtalot el-Islam reste relativement modeste pour diriger la République islamique. Enfin, son passé nourrit aussi les critiques. Mojtaba Khamenei est associé à la répression du mouvement vert iranien de 2009. Cette année-là, des millions d'Iraniens descendent dans les rues pour contester la réélection du président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'organisation de cette répression, particulièrement violente. À l'époque, certains slogans le visaient directement, je cite, « Mojtaba, que tu meurs avant de devenir guide ». En 2019, les États-Unis ont d'ailleurs décidé de le sanctionner, estimant qu'il exerçait une influence politique importante au sein du régime iranien.
Donc cette nomination, est-ce qu'elle marque une continuité du régime des Mollahs ?
C'est la grande question, car même s'il n'a jamais occupé de fonction officielle, Mojtaba Khamenei a acquis au fil des années une influence considérable au sein du bureau de son père Ali Khamenei. Il y jouait un rôle d'intermédiaire entre différents réseaux politiques, religieux et sécuritaires, notamment avec les gardiens de la Révolution, la force militaire d'élite chargée de défendre le régime de la République islamique en Iran. Pour le politologue Merzra Borujerdi, spécialiste de l'Iran à l'université du Missouri, ce choix n'est pas anodin. Je cite, « Il connaît parfaitement les rouages du système et entretient des relations avec un très large spectre d'acteurs politiques et sécuritaires. Pour la continuité de la République islamique, il peut donc apparaître comme une figure utile. » Discret mais puissant, Mojtaba Rahmanaï se présente donc comme un choix de continuité, et ce alors que la guerre se poursuit et que les États-Unis et Israël espèrent, entre autres objectifs, provoquer la chute du régime iranien.
Mojtaba Rahmanaï est déjà dans le viseur de ses ennemis. Donald Trump a été le premier à menacer. Hier, sur ABC News, il exigeait que le nouveau guide suprême obtienne son approbation. Je cite, « S'il ne l'obtient pas, il ne durera pas longtemps ». Quelques jours plus tôt, il a affirmé dans le média américain Axios, « Le fils de Rahmanaï est un poids-plume ». Du côté d'Israël, les menaces sont encore plus explicites. Plusieurs responsables ont prévenu que toute personne impliquée dans la désignation d'un successeur pourrait devenir une cible militaire. En visite à Chypre, Emmanuel Macron endosse son rôle de chef de guerre. Aujourd'hui, le chef d'État a affirmé que lorsque Chypre est attaquée, c'est l'Europe qui est attaquée. La visite du président fait suite à la frappe d'un drone iranien contre une base britannique de Lille. Cet après-midi, Emmanuel Macron a également embarqué à bord du porte-avions Charles de Gaulle afin de s'entretenir avec les équipages militaires. Il annonce le déploiement de 8 frégates, 2 porte-hélicoptères amphibies et du Charles de Gaulle dans la région. L'objectif, préparer une mission internationale purement défensive et rouvrir le détroit d'Hormuz. Vigilant sur la situation libanaise, le président de la République a réaffirmé son soutien aux alliés de la France dans la région. Si le pétrole voit noir, la France parie sur le nucléaire. Jusqu'à vendredi, l'Université des métiers du nucléaire co-organise avec France Travail la semaine des métiers du nucléaire. D'ici 2035, le secteur prévoit 100 000 recrutements, conférences, job dating, visites d'entreprises. Selon le représentant France Travail sur le nucléaire, Michel Sweeton, la semaine permettra de promouvoir des métiers trop peu connus des étudiants dans un secteur en plein essor. Avec 400 événements sur le territoire, le public cible s'étend des lycées professionnels au bac plus 8. Autre espoir de l'organisation, féminiser le nucléaire alors que seuls 25% des postes y sont occupés par des femmes. Faut-il éliminer massivement les renards, les corneilles ou les geais des chênes? Si le débat revient souvent lors des fêtes de famille, sachez que la réponse est non. Aujourd'hui, la revue britannique Biological Conservation a publié une étude menée par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Conclusion, l'élimination des espèces nuisibles en France est inefficace et injustifiable économiquement. Comme tous les 3 ans, le gouvernement publiera cet été une liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Pour réduire les risques sanitaires et les pertes économiques, près de 1,7 million de renards, mustélidés et corvidés sont tués. Selon cette étude, éliminer ces animaux reviendrait à dépenser 103 à 123 millions d'euros par an. Le coût des dégâts par les dits nuisibles revient au maximum à 23 millions d'euros par an. Fin 2025, cette étude a été remise au ministère de la Transition écologique qui ne l'a pas rendue publique. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un accident spectaculaire à Rennes. La semaine dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi, 2 jeunes de 15 et 16 ans ont été interpellés au volant d'un véhicule de la municipalité. En court-circuitant les fils électriques de la voiture, les mineurs ont pu en prendre le contrôle. Après un refus d'obtempérer, le conducteur s'engage à pleine vitesse dans une rue à sens unique. Manque de chance, il perd le contrôle, percute un bloc de béton et la voiture se retourne. Indemnes, les 2 jeunes ont été placés en garde à vue. Pour le 8 mars, Rennes s'est vêtue de violet, enregistrant un record d'affluence. Hier, la manifestation pour les droits des femmes a réuni près de 10 000 personnes dans les rues de la capitale bretonne. Sous le soleil, la musique et les rires ont rythmé la marche organisée par les collectifs féministes du département. Une semaine avant le premier tour des municipales, le mot d'ordre était clair, barrer la route à l'extrême droite. Dans les pages de Ouest France, les membres de Nous Toutes 35 n'ont pas manqué de rappeler que chaque année, ce sont 250 000 femmes victimes de viols en France, un chiffre supérieur à la population rennaise.
C'était le flash de l'AFKN, merci.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Estelle a un invité pour l'interview ce soir.
Face à la précarité alimentaire étudiante, certains se mobilisent. À Rennes, des apprentis du CAP Boucher de Kerlan ont décidé de passer derrière les fourneaux pour préparer des repas destinés aux étudiants. Pour en parler, Mathis Guillot, vêtu d'un pull beige. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment cette idée de distribution alimentaire est née ?
Le but, c'est de distribuer de la viande aux étudiants qui n'ont pas forcément besoin d'avoir de la viande à tous les repas. Le but, c'est de distribuer 700 repas à deux universités comprises, c'est-à-dire 350 repas réunis en tout.
Et donc là, c'est la deuxième édition. La première s'est passée l'année dernière. Est-ce que vous avez été plutôt partant dès le départ quand vos professeurs vous l'ont proposé ?
Globalement, toute la classe était partante car c'est une donation à des étudiants. Du coup, ça nous concerne aussi globalement. Et du coup, ça nous a tous ravis d'avoir fait le projet avec toute la classe.
Et comment ce sujet, il vous touche personnellement ?
Je ne sais pas comment dire. C'est donner des repas gratuits aux étudiants, ça fait des donations et ça nous fait plaisir à nous d'aider les étudiants dans le besoin à avoir à manger à chaque repas.
Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous allez préparer environ 700 repas. Donc, comment ça s'organise pour préparer autant de repas ?
On va contacter plusieurs fournisseurs comme le bœuf, le volaille et les légumes. Sauf qu'en ce moment, on a des difficultés avec les fournisseurs. Du coup, on ne sait pas si vraiment on aura 700 repas le jour J.
Et donc, quels plats vont être préparés ? Parce que là, tu dis que tu vas contacter des fournisseurs de volailles, de bœuf, pour faire quelles recettes ?
On va concocter un bœuf bourguignon et du poulet au curry.
Et comment il s'est fait, ce choix de recette ?
Parce que tous les étudiants ne mangent pas forcément de porc. Du coup, on a préféré faciliter la chose en choisissant du bœuf et de la volaille.
Et peut-être que aussi, ce sont des morceaux un peu moins, notamment le bœuf, ce sont des morceaux moins consommés par les jeunes. Est-ce que ça a été un critère qui a été pris en compte dans votre choix ?
Non, pas forcément. C'est que c'est les viandes les plus faciles à avoir en donation, car le collier c'est un des morceaux les moins utilisés, les moins chers dans le bœuf. Du coup, c'est plus facile à donner de la viande dans le morceau-là que par exemple le filet qui est en ce moment à presque 50 euros le kilo.
Et donc pour préparer autant de repas, vous allez mobiliser combien de personnes et sur combien de temps ? Enfin, comment ça va s'organiser toute cette préparation ?
En comptant les élèves, on est entre 16 et 18 et en tant que prof, il y en a deux.
Et vous allez préparer combien de temps à l'avance les repas ?
À 1 à 2 jours à l'avance.
Et comment vous allez les conserver jusqu'à la distribution ?
On va les sceller dans des barquettes plastiques avec des dates, avec marquées les dates d'expiration, avec toutes les allergies, les allergènes dans la norme.
Et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour préparer ces recettes, vous allez contacter des fournisseurs. Quel rôle ont ces fournisseurs et vous avez contacté quel type de fournisseurs ?
Le rôle de ces fournisseurs, c'est de nous garantir une viande pour les élèves pour concocter les repas. Et en même temps, ça leur fait une pub. Comme ça, les étudiants pourront plus aller voir pour la viande et dire qu'eux, ils ont été gentils à donner de la viande pour un projet de grande ampleur pour 700 repas.
Oui, parce que ces 700 repas, ils vont être distribués sur deux campus étudiants, Beaulieu et Villejean. Pourquoi vous avez fait le choix des campus et pas forcément le centre ou d'autres zones ? Et comment s'est organisée cette collaboration avec ces campus ?
Nous, en tant qu'étudiants, on a préféré donner aux étudiants dans les universités, car c'est les deux plus grosses écoles qu'on a actuellement dans Rennes. Et du coup, après, on a dû fonctionner avec les deux universités réunies en leur faisant signer des papiers pour que le jour J, on a bien le droit de donner les plats. Donc, l'année dernière, on a fait ça, sauf que à la dernière minute, les gens, ils ont décliné de donner les repas.
Et est-ce qu'il y a des collaborations internes avec ces universités-là, avec des associations des universités ?
Actuellement, du coup, on a plus le souci avec du bœuf. Normalement, d'avoir une quarantaine de kilos, et du coup, on n'en a qu'une vingtaine. Du coup, ça se fait, il y aura plusieurs entreprises de la classe qui vont participer à la donation. Du coup, ça va donner aussi un coup de pub à toutes les petites entreprises qui sont aux alentours de Rennes.
Et ça va être quel type d'entreprise ?
Des petites entreprises artisanales qui sont dans des petites communes comme il y a Fougères, Chartres de Bretagne, des petites communes comme ça.
Et donc la distribution elle va être aussi faite à l'aide de épicerie à Rennes 1 et l'épicerie gratuite à Rennes 2. Qui vont, donc, vous vous attendez à combien de personnes sur chaque campus et comment elle va s'organiser ? Enfin, combien de personnes vous allez mobiliser pour le jour J ?
On espère avoir toute la classe présente sur les deux campus réunis. Que le jour J, on va être sur les deux campus en même temps. Ça fait qu'on aura deux camions séparés avec tout le monde en voiture. Et on espère distribuer tous les repas si possible. C'est-à-dire 350 environ par chaque université.
Et vous avez, enfin, comment les étudiants ils peuvent venir récupérer ces repas ?
On va avoir un stand posé sur chaque campus. On ne sait pas encore l'endroit où ça va être exactement le site. Mais on va avoir des affiches pour dire que de venir ici. Et déjà dans notre campus, on a plein d'affiches pour dire quel projet et on peut le suivre en ligne aussi.
Sur quel réseau, par exemple ?
On a Instagram et Facebook.
Et ça va avoir lieu quand ?
Le 19 mars.
Et donc, pour plus revenir sur l'idée de précarité étudiante, est-ce que vous avez découvert ce sujet-là quand on vous en a parlé ? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en tant qu'élève ?
Moi, personnellement, je n'avais pas entendu parler l'année dernière. C'est quand, cette année, les profs nous ont proposé d'avoir cette idée de projet. Toute la classe nous a conquis de faire ce projet globalement. Et du coup, chacun des personnes pourront apporter leur part à l'édifice de ce projet.
Et plus sur le plan apprentissage, pour vous, est-ce que c'est aussi une opportunité d'apprendre à préparer de la viande pour autant de repas ou savoir la découper correctement ?
Oui, car souvent dans les petites entreprises ou comme dans des super ou intermarchés, souvent, il y a des gens ou des associations qui viennent nous contacter pour faire des grands plats. Du coup, ça nous entraîne à pratiquer la viande, à avoir de la rapidité et à s'organiser pour autant de plats réunis.
Et est-ce que ce projet, il a changé la vision future de ton métier ?
Non, pas forcément, car je considérais déjà la boucherie comme un beau métier. Mais en plus d'avoir fait des donations telles que 700 repas, c'est assez conséquent. Et on ne voit pas ça tout le temps non plus.
Donc peut-être ça pourrait devenir une initiative régulière, non ?
Oui, on va essayer d'apporter ça aussi pour les années prochaines, voire pour d'autres CFA à réunir, voire les contacter, voire leur donner comme projet. Comme ça, il y aura un peu partout dans la France.
Et est-ce que les centres de formation comme le tien, ils peuvent jouer un rôle plus important dans cette solidarité alimentaire ?
Ça peut nous faire d'une part de coup de la pub et en même temps tout le monde peut voir notre avancée dans le projet car chaque jour on essaie de poster des photos en ce moment et quand on est à l'école on pose des photos sur les projets qu'on fait avec la viande et un peu de tout et la semaine prochaine quand on va faire la distribution des repas on va mettre des photos sur la préparation en cours des viandes et on va mettre tout en place pour que tout le monde suive l'avancée des plats jusqu'à la date.
Et c'est quoi votre pseudo pour vous suivre, enfin pour suivre cette évolution ?
Les Bouchem solidaires.
Merci beaucoup Mathis Guillot. Donc pour rappel, cette distribution alimentaire où vous pourrez retrouver du bœuf bourguignon et du poulet curry aura lieu le 19 mars sur les campus de Beaulieu et de Villejean. Merci.
Quelle heure la distribution ? T'as l'info ?
Non, je ne sais pas encore. Okay. Faut qu'on voit ça avec les.
Il faut suivre sur les réseaux sociaux.
Ouais, n'hésitez pas à vous abonner.
Merci.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure de la chronique et c'est le retour de Play Pause Décrypte. Ça faisait un bail.
Ça
c'est avec Roman.
Et là, on va en 1990. L'Allemagne est réunifiée. L'invasion du Koweït par l'Irak déclenche la première guerre du Golfe. Et après 27 ans de prison, Nelson Mandela est enfin libre. La Game Boy apparaît dans les poches des adolescents et des adolescentes. À la radio, on écoute Vogue de Madonna, Enjoy the Silence de Depeche Mode et Kingston Town du B40. Mais aux États-Unis, un procès va faire beaucoup de bruit. Le groupe de heavy metal Judas Priest est accusé d'avoir poussé deux adolescents au suicide à travers cette musique. Better by You, Better than Me, c'est le titre de la chanson Au cœur de l'affaire. Elle est tirée de l'album Stained Glass, sorti en 1978 par Judas Priest, groupe britannique considéré comme pionnier du heavy metal. À cette époque, on est en plein satanique panique, une panique morale qui traverse l'Amérique conservatrice. On voit du satanisme partout, dans les jeux vidéo, dans Donjons et Dragons, à Hollywood, et le métal est dans le viseur. On l'accuse de promouvoir le suicide, la drogue, la violence. Des parents, des pasteurs, des sénatrices et sénateurs militent pour l'interdire, et c'est dans ce climat que va s'ouvrir le procès de Judas Priest.
Et que leur reproche-t-on exactement dans la mort de ces deux adolescents ?
Pour comprendre, il faut remonter 5 ans avant le procès. On est le 23 décembre 1985 à Reno, dans le Nevada. Deux amis, Ray Belknap et 20 ans, et James Vance, 18 ans, passent la soirée ensemble. Ils boivent, fument et écoutent l'album de Judas Priest en boucle. Les deux ont des vies difficiles, violences familiales, problèmes avec la justice, addiction. Ce soir-là, la conversation dérive vers le suicide. Ray se tire une balle avec un fusil de chasse, il meurt sur le coup. James le suit, il survit mais défiguré, il mourra 3 ans plus tard. Les familles dévastées cherchent une explication, elles la trouvent dans la musique. En 1990, elles attaquent Judas Priest en justice. Leur argument, le groupe aurait caché dans la chanson des messages subliminaux, les mots « do it, do it, do it », audibles uniquement en passant le morceau à l'envers. Des mots qui auraient, selon elles, poussé leurs enfants à passer à l'acte.
Et comment va finir ce procès, Romane ?
Au tribunal, la défense va prendre une tournure inattendue. Rob Halford, le chanteur, est appelé à la barre. Son avocate lui demande de chanter Better By You, Better Than Me a cappella devant la juge. L'idée, prouver que ces fameux do it ne sont que le souffle de sa respiration et pas un message caché.
Better by you, better than me. You can say what I only can see.
Thank you.
It'd be,
is the exhalation of breath?
Yes.
Is that a normal part of your singing?
That's the way I've always sung, that's just my style.
Are there subliminal duets on the Better By You, Better Than Me song?
Absolutely not.
Une archive publiée sur YouTube par Metal Injection. Mais Halford va plus loin, il enregistre une chanson à l'envers et la diffuse à la cour. Les gens entendent alors des phrases absurdes comme « Maman, ma chaise est cassée » ou « Donnez-moi un bonbon à la menthe ». Le but de sa démonstration, montrer qu'on peut faire dire n'importe quoi à un enregistrement passé à l'envers. Il conclut en disant, je cite « Si j'avais eu le choix de glisser des messages subliminaux dans mes chansons, j'aurais incité mes fans à acheter des disques, pas à se supprimer ». Le 24 août 1990, le juge Whitehead rend son verdict. Judas Priest est acquitté. Les messages subliminaux ne sont pas intentionnels et n'ont pas pu influencer le comportement des deux jeunes. Mais alors, qui est responsable ? Pour le juge, la réponse est ailleurs. Dans l'histoire familiale des deux adolescents, marquée par la violence, l'addiction et l'isolement, la sœur de Ray, qui n'avait jamais écouté de heavy metal, avait elle aussi tenté de se suicider à 2 reprises. James, lui, n'avait été sobre que 2 semaines au cours des 5 dernières années. Ce procès restera comme un symbole, celui d'une époque où le heavy metal incarnait les peurs d'une société face à ses propres laissés pour compte.
Merci Romane, et si vous avez besoin de parler, des professionnels sont à votre écoute au 3114, le numéro national de prévention du suicide disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comme d'hab, on écoute la chanson en entier à la fin de l'émission. Avant ça, on jette une oreille sur le répondeur.
Ah, le téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllabe, la radio sauvage.
Pas de message ce soir, mais vous pouvez en laisser au 02 30 96 25 35. Si vous avez des choses à dire sur la musique, sur nos chroniques, sur nos interviews, n'hésitez pas. 02 30 96 25 35. À la technique ce soir, Timothée, merci. On écoute Better By You, Better Than Me, c'est Judas Priest sur Syllabe. À demain dans 6 heures avant minuit.
We'll be right back.
Si.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit. 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.